Si vous écoutez bien la réponse à la question suivante, il est possible que votre vie soit totalement changée. Est-ce possible que Dieu puisse changer un cœur de pierre en cœur de chair? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. C'est tellement important qu'on écoute tous les réponses que donne la Bible à nos questions d'aujourd'hui. Dieu veut nous enseigner des choses qui peuvent transformer littéralement notre vie. Voici les questions. Est-ce possible qu'il y ait des gens qui servent dans leur église avec des motifs égoïstes, tout comme Judas? De nos jours, comment pouvons-nous répandre un parfum de bonne odeur pour Christ, à l'exemple de Marie qui a répandu du parfum sur la tête de Jésus? Ratons-nous le but de l'événement si nous nous réunissons pour le repas du Seigneur sans que Christ n'en soit le point central? Est-ce que nous avons tous un cœur totalement dépravé, perverti? Est-ce que Dieu change notre cœur quand on vient à Christ? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner la merveilleuse parole de Dieu en réponse à toutes nos questions. Mais on a besoin de l'aide de Dieu pour bien comprendre sa parole. Prions. Aide-nous, Seigneur, ouvre notre intelligence. Enseigne-nous ta bonne parole, qu'on puisse l'apprécier, être reconnaissant à chaque jour, de nous donner la liberté de pouvoir l'entendre prêcher, de pouvoir la mettre en pratique. Parle-nous, mon Dieu, c'est tellement bon d'entendre ta voix. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, mes amis, nous abordons le chapitre 14, le plus long de l'Évangile selon Marc, avec 72 versets. Aujourd'hui, nous nous rendrons jusqu'au verset 21. Nous sommes encore dans un chapitre rempli d'action, mais ce n'est plus Jésus qui l'a produit. Il subit ce que lui imposent ses amis et ses ennemis. C'est l'heure où il doit être livré pour être crucifié. Son ministère terrestre se termine par l'accomplissement d'une prophétie, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Il se livre entre les mains des hommes. Marie, loin. Judas le trahit. Pierre le renie. Et le Sanhédrin le fait arrêter. Il se soumet à la volonté de son Père. Alors, que nous nous approchons de la croix, les cœurs qui craignent Dieu se rendent compte que nous marchons sur un terrain sacré. Nous y découvrirons des profondeurs jamais atteintes et des hauteurs jamais escaladées. L'action de cet épisode comprend l'angoisse et l'agonie de son âme. Son heure est venue. Rappelez-vous, les noces de Cana. Il avait dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » Jean, chapitre 2, verset 4. Mais maintenant, l'heure est arrivée. Dans ce chapitre, il y a une situation très étrange, car il semble y avoir un accord entre le ciel et l'enfer. Pour une fois, le ciel et l'enfer tirent dans la même direction. La justice et le péché se rendent tous deux à la croix. Dieu et Satan ont décidé que Christ doit être crucifié. Des décisions individuelles seront prises au sujet de la croix. Et nous devons, nous aussi, en prendre une aujourd'hui. Allons-nous accepter l'offre de la vie éternelle que Christ nous fait en payant pour nos péchés à la croix? Voici le plan du chapitre. Premièrement, les principaux sacrificateurs et les scribes complotent afin de tuer Jésus. Versets 1 et 2. Marie de Béthanie répand un parfum sur la tête de Jésus. Versets 3 à 9. Judas planifie la trahison de Jésus. versets 10 et 11. Jésus prépare la dernière Pâque ainsi que la première Sainte Cène, versets 12 à 25. Pierre jure d'être fidèle à Jésus, versets 26 à 31. Jésus prie dans le jardin de Gethsémané, versets 32 à 42. Jésus est arrêté, versets 43 à 52. Jésus comparaît devant le Sanhédrin, versets 53 à 65. Et finalement, Pierre renie Jésus, versets 66 à 72. Chers amis, débutons notre lecture, Marc chapitre 14, versets 1 et 2. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car, ils disaient, « Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » La Pâque était observée le 14e jour du premier mois, le mois de Nisan, qui correspond à notre mois d'avril. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lévitique, chapitre 23, verset 5. La fête des pains sans levain débutait le 15e jour et se poursuivait pendant 1 semaine. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Lévitique, chapitre 23, verset 6. Les principaux sacrificateurs et les scribes désiraient attendre à la fin de la fête pour arrêter Jésus et le mettre à mort, soit après le départ de la foule venue célébrer. Ils préféraient ne pas mettre leur plan à exécution pendant la fête. Après les 7 jours de la fête des pains sans levain, les gens quitteraient la ville. C'est alors qu'ils mettraient la main sur Jésus. Afin d'éviter d'éveiller la colère de la foule et de provoquer une émeute, ils préféraient ne rien faire avant la fin de la fête. La foule, descendue à Jérusalem pour la fête, admirait Jésus et considérait qu'il était envoyé de Dieu. Le peuple suivait et écoutait les discours de Jésus, car il les nourrissait et les guérissait. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Voici une scène touchante. L'Évangile de Jean situe cet épisode 6 jours avant la Pâque. Jean, chapitre 12, verset 1er. Est-ce que Matthieu et Marc se sont trompés en le plaçant la veille de la Pâque? Non. Rappelons-nous que Matthieu et Marc n'essaient pas de donner un récit chronologique des événements. Leur but est de placer cet événement à côté de la trahison de Judas, afin de faire ressortir le contraste frappant entre la lumière et les ténèbres qui sont en conflit. Matthieu et Marc n'ont pas tenté de rédiger un récit chronologique de la vie de Jésus ou sa biographie. Les amis et les ennemis de Jésus avancent vers la croix, mais par un chemin différent. Marie de Béthanie a choisi le chemin de la lumière et de l'amour, alors que Judas agit par des motifs sombres et ignobles. L'apôtre Jean nous a appris que la femme était Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Jean, chapitre 12, verset 3. Poursuivons notre lecture, versets 4 et 5. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Jean, nous informe aussi que c'est Judas qui a mené le bal lorsque quelques apôtres se sont indignés. La raison pieuse proposée par Judas cachait son véritable motif. Judas tenait la bourse et il arrivait qu'il s'y serve. Il aurait aimé pouvoir mettre la main sur l'argent de la vente du parfum. Les pauvres n'auraient sûrement pas vu cet argent. Malheureusement, nous voyons encore cela de nos jours dans les milieux chrétiens. Bien des chrétiens se servent de l'Église pour atteindre des fins égoïstes plutôt que la gloire de Dieu. Versets 6 et 7. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. » S'ils étaient sincères, ils auraient de nombreuses autres occasions d'aider les pauvres, et ils pourraient le faire lorsqu'elles se présenteront. Nous avons encore des pauvres aujourd'hui. Et ce problème, caractéristique de notre temps, ne sera pas réglé avant le retour de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas éliminer le problème de la pauvreté en distribuant des billets. Il y a de nombreuses choses à régler avant, en commençant par l'état de notre cœur. Versets 8 et 9. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Elle a fait ce qu'elle a pu, et c'est tout ce que Dieu nous demande. Cependant, remarquez que Marie avait un discernement spirituel que n'avaient pas les apôtres à ce moment crucial. Elle a oint son corps pour son enterrement. Pensez-y. Cette femme, qui était un témoin impuissant des événements qui ont mené à la croix, laisse savoir à Jésus qu'elle comprend ce qui se passe. Ce ne fut pas le cas des apôtres qui n'ont rien perçu. Donc, le Saint-Esprit s'est assuré que la bonne odeur de ce parfum répandu se rende jusqu'à nous aujourd'hui en traversant plusieurs siècles. Cette odeur remplit nos cœurs présentement. Marie fut celle qui a compris la situation alors que la mort de Christ approchait. C'est facile de lire cette histoire et de ne pas réfléchir à sa signification. Avons-nous brisé notre vase de parfum pour le répandre sur Jésus? Y a-t-il une odeur agréable qui émane de notre vie et qui bénit les autres? Si certains brisaient leur vase, ce serait peut-être afin d'aider les pauvres. Est-ce que nous, qui formons le peuple de Dieu, faisons tout notre possible? Maintenant, observez le contraste éclatant entre cette expression d'amour et le projet ignoble de Judas. Versets 10 et 11. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Judas accomplit les œuvres des ténèbres. Cet homme participe à un complot afin de faire périr Jésus. Notez que le Seigneur modifie les plans des sacrificateurs qui voulaient faire mourir Jésus à un temps convenable pour eux. Nous lisons dans l'Évangile de Jean les paroles qu'a dit Jésus à Judas. « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jean, chapitre 13, verset 27. Judas a dû se dépêcher d'aller voir les pharisiens et leur dire, « Vous devez l'arrêter maintenant, car notre complot est connu. Il m'a dit de faire ce que je voulais faire rapidement. Il pourrait quitter la ville. » Alors, l'élite religieuse a pris les mesures pour faire arrêter Jésus immédiatement. C'est Christ qui est au contrôle malgré les apparences. Maintenant, selon l'évangile de Marc, Jésus se prépare afin de célébrer la Pâque. Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» La Pâque se prenait avec du pain sans levain, et c'était aussi le cas pour les 7 jours suivants. Exode, chapitre 12, versets 14 à 20. Si vous visitez Israël pendant le temps de la Pâque, vous remarquerez que les restaurants ne servent que du pain sans levain. Les disciples désiraient respecter la loi mosaïque au sujet de la Pâque. Ils désiraient connaître l'endroit où ils célébreraient la Pâque. Dans quelques heures, Jésus accomplira la Pâque, lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Versets 13 et 14. Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Ici, nous voyons le côté humain de Jésus, ainsi que le fait que des personnes l'aimaient et préparaient la Pâque pour lui. Nous voyons aussi l'omniscience de Dieu. Il semble que le maître de la maison était un disciple non identifié de Jésus. Il est plus que probable qu'il avait proposé la chambre haute à Jésus auparavant. Je pense qu'il avait déjà rencontré Jésus lors du ministère de celui-ci et qu'il lui avait proposé sa chambre. Il a dû dire à Jésus, « Bien, lorsque tu viendras à Jérusalem pour la Pâque, j'ai une chambre et je l'ai préparée juste pour toi. » Cet homme a rendu un merveilleux service à Jésus. Nous pouvons faire bien des choses pour le Seigneur Jésus. Et c'est ce que cet homme a fait pour Jésus. Versets 15 et 16. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Jésus a célébré la Pâque dans une chambre empruntée qui, de toute évidence, avait été préparée pour lui. Donc, le maître de la maison s'était engagé à la prêter. Je ne pense pas que l'on devrait reprocher à l'hôte de ne pas avoir lavé les pieds des disciples. Puisque c'était une occasion privée et arrangée à l'avance, le maître n'avait pas à être là pour laver les pieds des visiteurs, ni à se mêler de quoi que ce soit concernant la fête. Nous avons déjà vu un incident semblable lorsque Jésus envoya ses disciples chercher l'ânon pour son entrée à Jérusalem. Ils ont trouvé les choses telles que Jésus l'avait dit. Je pense qu'une entente avait été négociée au sujet de l'ânon. Le Seigneur avait prévu ce dont il aurait besoin et il avait fait des arrangements au préalable. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Remarquez que Jésus est arrivé en soirée. La Pâque débutait au coucher du soleil, et je pense que Jésus est arrivé sous le couvert de la noirceur. Il ne forcera pas la main à l'élite religieuse tant qu'il ne sera pas prêt, et c'est lui qui choisira le moment où il se livrera à eux. Donc, Jésus ne sera pas crucifié selon l'horaire prévu par les sacrificateurs, mais selon le sien. Jésus maîtrise entièrement la situation. Cette fête fut une belle occasion. Jésus célébra la Pâque avec ses disciples d'une manière informelle et relaxe. Nous faisons souvent du repas du Seigneur une occasion très formelle. Jésus a mangé avec ses disciples dans cette chambre à l'occasion de la Pâque. Et le prochain repas, qui sera pris avec eux, sera sur le bord de la mer de Galilée après sa résurrection. Ce fut l'occasion d'une belle communion avec eux. Je n'ai rien contre les repas d'église en soi. Je pense qu'ils ont un but très louable. Mais malheureusement, bien des repas d'église ne sont pas ce qu'ils devraient être. C'est merveilleux lorsque les gens se rencontrent pour avoir la communion fraternelle autour de la personne de Christ. Si Christ n'est pas le point central de l'événement, nous ne faisons qu'avoir du bon temps, même si nous affirmons avoir de la communion fraternelle. En fait, nous ratons le but de l'événement. Un repas d'église devrait être une occasion de se réunir autour de la personne de Christ. C'était le but de la fête de Pâques. Versets 18 et 19. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Tous les apôtres savaient qu'ils étaient capables de faire une chose aussi ignoble, mes amis. Si vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous êtes totalement dépravé, que vous n'êtes pas une bonne personne, mais un pécheur, et que vous êtes capable de vous virer contre Dieu, alors vous n'avez pas appris grand-chose. Malheureusement, bien des personnes dans nos églises ne se rendent pas compte qu'elles sont pécheresses et perdues. De plus, il y a des chrétiens qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent se virer un jour contre Dieu. Nous devrions tous demander, « Est-ce moi ?» Versets 20 et 21. Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. C'est Judas d'Iscariote qui a pris la décision de trahir Jésus. Sa responsabilité est très grande, car il a accompagné Jésus pendant 3 ans. Nous lisons dans le psaume 41, verset 10. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Jésus a indiqué Judas et c'est à ce moment que celui-ci a quitté la chambre. Mes amis, Judas avait un cœur comme le nôtre, capable des plus grands péchés. Marie, touchée par la grâce de Dieu, exprimait son amour pour son Sauveur. Son discernement lui était donné par l'Esprit Saint. Lorsque nous venons à Christ, il remplace notre cœur de pierre par un cœur de chair. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Citation du prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 26. Seul l'Esprit de Dieu peut purifier nos cœurs et restreindre le péché dans ce monde. Prochaine émission, Marc 14, versets 22 à 72.
Oh, merci beaucoup, Régent. Et surtout, merci Seigneur. Quel enseignement solide. On en a beaucoup appris concernant notre cœur qui peut être si méchant. Mais gloire à Dieu, puisque lorsqu'on vient à Jésus, il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Jésus nous donne un cœur nouveau, un cœur qui est capable d'aimer et de faire ce qui est bien avec des motifs purs. Mais j'aimerais m'arrêter sur l'enseignement que Régent nous a donné aujourd'hui concernant Marie. qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle a rompu son vase qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix pour le répandre sur la tête de Jésus? Vous trouvez pas ça touchant? Moi, oui. J'aurais aimé être à la place de Marie. J'espère que j'aurais pensé de faire la même chose qu'elle. Combien Jésus a dû être touché par son geste. Heureusement, il est encore possible de nos jours de répandre du parfum sur Jésus, en ayant une vie qui est agréable à Dieu, par notre obéissance, par notre fidélité dans notre marche chrétienne, en faisant sa volonté. On a vu aujourd'hui que pour répandre ce parfum sur Jésus, on peut aider les pauvres. On peut aussi consoler quelqu'un qui est abattu, aider ceux qui ont de la difficulté dans un domaine où on a les dons nécessaires pour aider. Il y a plusieurs manières d'avoir une vie qui est une bonne odeur pour Jésus. Il nous a dit lui-même que tout ce qu'on fait au plus petit d'entre les siens, c'est à lui qu'on le fait. Alors tu peux répandre du parfum sur Jésus à tous les jours en faisant du bien à quelqu'un de ton entourage. Il n'y a pas tellement longtemps, j'avais du chagrin. Puis un frère de mon église l'a détecté, même si j'essayais de le cacher. Il est venu vers moi, il m'a aidé à en parler. Il m'a dit quelques bonnes paroles d'encouragement. Il a prié avec moi et pour moi. Oh, que ça m'a fait du bien! Je suis sûre que son geste a été d'une agréable odeur à Jésus. Et ma prière à Dieu, c'est que je puisse faire ça moi aussi à tous les jours, voir les gens qui sont autour de moi. Que ce soit de près ou de loin, que je puisse détecter ceux qui ont besoin de moi, que je puisse être là pour les encourager, les aider, les aimer, comme Dieu m'aime. As-tu pensé à ça, mon ami? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui souffre? Peut-être c'est quelqu'un qui a l'air d'être froid avec toi. Des fois, on a l'impression qu'une personne est froide, mais c'est parce qu'elle souffre, puis elle se réfugie au-dedans d'elle-même et elle donne un aspect froid. Et c'est surprenant si on va vers ces personnes et qu'on leur offre d'ouvrir leur cœur, qu'on les écoute, même juste écouter une personne qui souffre. On répand un bon parfum sur Jésus. Jésus a fait un sacrifice qui était une bonne odeur à son Père. Il a donné sa vie pour payer la dette de nos péchés. On peut agir comme lui. On n'a pas à donner notre vie sur une croix, mais on peut, de notre vivant, répandre beaucoup d'amour autour de nous, comme un bon parfum.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui. Toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.